Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13:8. Lettre circulaire. Avril-mai 2019. Je salue très cordialement tous les frères et sœurs dans le monde entier dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec cette parole de 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le retour promis de Christ, Jean 14, 3, était le sujet principal au temps des apôtres et l'est aujourd'hui pour tous les croyants bibliques. Lorsque le Seigneur a prédit la destruction du temple, dans Matthieu 24, 1 à 3, les disciples lui posèrent trois questions. 1. Quand cela arrivera-t-il? 2. Quel sera le signe de ton avènement? 3. Et de la fin du monde? Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre écrit aussi bien concernant la première résurrection que concernant la seconde résurrection et il déclara, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. » 1 Corinthiens 15, 22 à 24. Les saintes écritures décrivent différentes venues, mais un seul retour de Christ, avènement, en français. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, l'accent est mis sur ce qui doit se passer avec chacun de nous en particulier, avant le retour promis de Jésus-Christ. Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Actes 3, 19 et 20. Le plein pardon des péchés, et la justification absolue par la foi dans la rédemption accomplie, doivent être expérimentés en chacun de nous personnellement, afin que le Seigneur puisse envoyer les temps de rafraîchissement. Le réveil et le rafraîchissement spirituel que le Seigneur Dieu a déversé au commencement sur les siens par l'effusion du Saint-Esprit, nous sont aussi promis avant que le Seigneur revienne. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, 21. Le retour de Jésus-Christ n'arrivera que lorsque le même message qui fut prêché au commencement sera prêché maintenant, à la fin. Il n'est donc pas seulement question du rafraîchissement et du réveil par l'Esprit de Dieu, mais du rétablissement total dans l'Église de tout ce qui était au commencement dans l'Église originelle, ce qui concerne l'enseignement, tout comme ce qui touche à la vie. Placement scripturaire. Dans les prophéties bibliques de l'Ancien Testament, tout ce qui appartient au plan du salut de Dieu a été prédit, que cela soit en relation avec Israël, avec l'Église, ou les nations, et également ce qui doit se passer à la première venue du Rédempteur, ainsi que lors de son retour et encore après. Dans Luc 24, le Seigneur ressuscité révéla à ses disciples que tout ce qui était écrit de lui dans la loi, les psaumes, et les prophètes, s'était accompli. Ensuite il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils puissent comprendre toutes ces choses. De même maintenant s'accomplit tout ce qui est écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour ce temps, et le Seigneur fidèle nous a aussi ouvert l'esprit pour comprendre. Par la grâce de Dieu, nous pouvons reconnaître quelles sont les promesses qui se sont accomplies autrefois et celles qui s'accomplissent dans notre temps. C'est ainsi que, par exemple, nous trouvons dans Matthieu 3, 3, la confirmation que Dieu, par Jean, a réalisé la promesse donnée dans Ésaïe 40, 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Lors de la première venue de Christ, la première partie du verset de Malachie 3, 1, s'est accomplie par le ministère de Jean-Baptiste. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » C'est ce que confirme notre Seigneur dans Matthieu 11, 9 et 10. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » La seconde partie s'accomplira lorsque le temple sera rebâti, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. « Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Dans Matthieu 17, nous lisons au sujet de la transfiguration de notre Rédempteur sous les yeux des trois disciples, et de l'apparition de Moïse et d'Élie. Ensuite, les disciples demandèrent à notre Seigneur, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses, Et juste après cela il ajouta, « Mais je vous dis qu'Eli est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Versets 10 à 13. Conformément à Luc 1, 17, la première partie de la promesse apportée par le prophète Malachie s'est accomplie par Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs des pères vers les enfants. Malachie 4, 6 a, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jésus pleura sur Jérusalem, parce qu'Israël, son peuple élu, n'a pas reconnu le temps où Dieu l'a visité dans sa grâce, ni ce qui s'était passé conformément à la parole dans leur temps, et il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Luc 19, 42 à 44. Les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, rejetèrent le dessein de Dieu. Luc 7, 30. Les Juifs attendent encore la venue d'Élie, puisque les docteurs de la loi d'autrefois, et jusqu'à ce jour, n'ont pas reconnu que la promesse est accomplie. C'est pourquoi, à chaque célébration de la Pâque juive, une chaise et un verre de vin sont préparés pour lui. Toutefois, deux prophètes ont été promis pour le peuple d'Israël, lesquels apparaîtront à Jérusalem, comme cela nous est montré dans Zacharie 4, par les deux oliviers qui se tiennent aux côtés du chandelier. Verset 3. L'explication donnée dans la parole prophétique est la suivante. Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Verset 14. Nous trouvons l'accomplissement de cette parole au travers du ministère des deux prophètes qui nous rappellent Moïse et Élie, dans Apocalypse 11, 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Que Dieu soit remercié de nous avoir accordé par sa grâce de pouvoir placer la prophétie de manière biblique. Par le ministère particulier de Jean-Baptiste, lequel était promis lors de la première venue du Sauveur, les pères de l'Ancien Testament ont été amenés à la foi des enfants du Nouveau Testament. Ce ministère fut à 100% dans la parfaite volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, et ce n'est que de cette manière que pouvait être préparé au Seigneur un peuple bien disposé, lors de sa première venue. La seconde partie de la promesse de Malachie 4:6 s'accomplit maintenant, conformément à ce que notre Seigneur a annoncé dans Matthieu 17:11 et Marc 9:12. Par un ministère semblable à celui d'Élie, les cœurs des enfants de Dieu sont ramenés à la foi des pères apostoliques. C'est l'objectif même du dernier message, afin qu'à son retour, le Seigneur puisse prendre à lui un peuple bien préparé. Non pas une théorie, mais une réalité. Dans 1 Roi 18, il nous est rapporté que le prophète Élie rassembla le peuple de Dieu sur le mont Carmel. Que fit-il en premier? Élie appela tout le peuple rassemblé à faire un choix. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. 1 Roi 18, 21. Ensuite, il prit 12 pierres et bâtit un autel à l'Éternel. Que se passe-t-il par le ministère d'Élie dans notre temps? La doctrine des 12 apôtres a été rétablie sur le chandelier. Le fondement de la foi authentique a été de nouveau posé, afin que tout soit ramené à l'état originel dans l'Église, et que tout soit vécu dans la réalité. La vraie Église, aujourd'hui encore, est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Alors l'Éternel Dieu répondit, et le feu divin consuma l'holocauste et l'autel. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 Roi 18, 36 à 38. Ensuite, Élie dit à Achab, « Monte, mange, et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Verset 41. Il nous est raconté par la suite que la pluie tomba fortement. Qu'en sera-t-il maintenant? Autrefois le peuple a été rassemblé, et leur cœur a été ramené. Ceci est tout autant valable aujourd'hui, Selon le commandement du Seigneur, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles. Psaume 50, 5. Deutéronome 4, 10. L'apôtre Jacques a écrit. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance. 5, 17. Jean-Baptiste était un homme comme nous. Frère Branham était un homme comme nous. Il est question du mandat, de l'envoi. Matthieu nous fait le récit du ministère du prophète qui fut envoyé, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Matthieu 3, 5 et 6. Le peuple se rassemblait en masse. Tous ceux qui accordaient la foi à la prédication se repentaient, regrettaient, et confessaient leurs péchés, et se faisaient baptiser. Aujourd'hui, il en est encore de même, le peuple de Dieu vient de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Tous ceux qui croient le message divin, se repentent et se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui autrefois se firent baptiser, entendirent et crurent ce que le messager leur disait, « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Verset 11. Au jour de la Pentecôte, il y eut premièrement les 120 qui s'étaient rassemblés, puis 3000 personnes s'ajoutèrent et expérimentèrent l'effusion du Saint-Esprit, et par la suite beaucoup d'autres encore en plusieurs autres endroits. Ceci était au commencement et la même chose est promise pour la fin. Tous ceux qui maintenant croient réellement et se font baptiser, auront part à la puissante effusion de l'Esprit, lorsque les pluies de l'avant et de l'arrière saison tomberont en même temps. Jacques 5, 7. Le temps est proche. Par le dernier message, Dieu a tout restauré et il va achever victorieusement son œuvre de rédemption avec l'Église épouse. Le message avant la seconde venue de Christ. Aussi vrai que le Seigneur Dieu a promis d'envoyer un prophète comme Élie, avant que le jour redoutable de l'Éternel arrive, Malachie 4, 6, Matthieu 17, 11, il est tout aussi vrai que cette promesse est accomplie dans notre temps. Comme autrefois les scribes spirituellement aveugles ne reconnurent pas l'accomplissement des promesses, faites dans Ésaïe 40, 3, et de Malachie 3, 1. De même aujourd'hui les conducteurs dans la chrétienté ne reconnaissent pas l'accomplissement de l'importante promesse pour notre temps. Avec le plus grand respect devant Dieu et devant la parole de Dieu, nous croyons le témoignage du mandat qui a été donné à William Branham, le 11 juin 1933. Celui qui ne respecte pas ce que le Seigneur a fait dans notre temps, passe à côté de ce que Dieu fait à présent. 85 ans se sont écoulés depuis 1933. Le 11 juin dans l'après-midi, vers 14h, alors que le jeune évangéliste William Branham baptisait ceux qui s'étaient convertis, la nuée, surnaturelle, descendit visiblement au-dessus de l'homme de Dieu, aux yeux de tous ceux qui étaient présents, pendant qu'il était debout dans le fleuve Ohio, sur le point de baptiser la 17e personne. Au milieu d'un grondement impétueux, que tous entendirent, ces paroles lui ont été adressées. Comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Christ, de même ton message sera le précurseur de la seconde venue dans le monde entier. C'est ce que frère Branham a rapporté le 14 juillet 1963. Le 29 décembre 1963, il dit dans sa prédication, « Je pourrais ne pas le faire, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue, de même le message précédera la seconde venue. Je sais qu'il en sera ainsi. Le message continuera d'être apporté. » Et encore une troisième citation, une voix disait, « Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue, de même ton message précédera sa seconde venue dans le monde entier. » 19 février 1965. Chaque déclaration en effet doit être fondée sur deux ou trois témoins. 2 Corinthiens 13, 1. C'est pourquoi nous avons repris ces trois citations parmi les différentes déclarations sorties de la bouche même de frère Branham se rapportant à ce qu'il a entendu venant de la nuée surnaturelle. Il s'agit de l'exactitude des mots du mandat divin, c'est-à-dire d'apporter le message fondé uniquement sur les saintes écritures. Une fois encore, nous redonnons la version américaine falsifiée, dans laquelle le mot « message » manque. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder la première venue, de même tu précéderas la seconde venue de Christ. Frère Branham s'est référé plus de 80 fois à Apocalypse 22, 18 à 21, en soulignant que personne n'a le droit d'ôter ou d'ajouter un mot. Le serpent ancien, dans Genèse 3, 1, n'a ajouté qu'un seul mot à ce que le Seigneur Dieu avait dit dans Genèse 2, 16, à savoir le mot « pas ». Et c'est ainsi que le péché originel, la chute, arriva. Celui qui croit la version falsifiée et qui s'en réclame est tout aussi séduit que le fut Ève et il s'embrouille dans des arguments tout comme elle. Pour eux s'accomplit ce que Paul a écrit dans 2 Corinthiens 11, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Verset 3. Un chapitre dans le plan du salut a pris fin le 24 décembre 1965 avec le décès de frère Branham, à savoir d'apporter le message pour cet âge. Il a apporté le message, mais il ne l'a apporté dans aucun autre pays, encore moins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est qu'après la mort de frère Branham que le message original a été apporté dans tous les pays et dans toutes les langues du monde entier, comme cela a été promis dans la deuxième partie du mandat du 11 juin 1933. Et comme frère Branham nous l'a laissé comme étant ainsi dit le Seigneur. Les érudits du message autoproclamé se sont assis dans la chaire du prophète et ont présenté une interprétation après l'autre, à partir des citations mal comprises. Cela a commencé avec la doctrine selon laquelle tout serait fini en 1977 et cela continue jusqu'aujourd'hui. Il est à noter qu'il n'est fait mention nulle part dans la Bible d'un ministère dans une tente que le prophète, après sa résurrection, doit accomplir 30 jours avant l'enlèvement. Il n'y a rien dans la parole de Dieu sur les divers enseignements des sept tonnerres, ni sur l'enseignement que sept hommes spéciaux parleront avec des voix de tonnerre. Il ne se trouve non plus nulle part dans les saintes écritures que, lorsque les sceaux ont été ouverts en mars 1963, l'agneau aurait quitté le trône de la grâce, et qu'il serait descendu pour réclamer les rachetés. Ce n'est absolument pas vrai. Dans chaque âge de l'Église, le Seigneur a ses élus, les vainqueurs qui seront éternellement dans la gloire. C'est ainsi qu'il est écrit, sept fois, dans Apocalypse 2 et 3, dans les sept lettres aux Églises. Amen. Celui qui vaincra. Amen. La dernière promesse nous appartient, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Il n'est pas vrai qu'Apocalypse 10 serait déjà accompli et que le Seigneur est descendu en tant que l'ange de l'Alliance, entouré d'un arc-en-ciel. Quand il vient en tant que l'ange de l'Alliance, il posera ses pieds sur la terre et sur la mer en jurant qu'il n'y aura plus de temps. Lorsque cela arrivera, il ne restera plus que 3 ans et demi, comme Daniel a vu et entendu dans le chapitre 12 au verset 7. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Il est écrit qu'il viendra pour les Juifs en tant que l'ange de l'Alliance. C'est à ce moment-là que s'accomplira Malachie 3, 1b, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Nous remercions Dieu pour la clarté dans sa parole et la certitude que chaque promesse écrite dans la parole de Dieu trouve son accomplissement au temps marqué. Tous ceux qui croient, selon la fausse version, que frère Branham a précédé la seconde venue de Christ, croient à leurs propres interprétations. La liste des fausses doctrines pourrait continuer. Cependant, Pierre écrit avec l'autorité divine qu'aucune prophétie de l'Écriture ne permet une propre interprétation. 2 Pierre 1, 20. Aucun élu ne croira une fausse doctrine. Ceux qui ont été élus avant la fondation du monde ne peuvent être séduits. Ils reconnaissent que le message précède encore le retour de Christ, comme l'a dit le Seigneur. Ils ont été ramenés à la parole et ne croient que ce qui est écrit dans la parole. Amen. Un envoi biblique. Le Seigneur nous a dit ce qui se rattache à un tel envoi, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Paul aussi pouvait le témoigner lorsqu'il faisait le rapport de son appel, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Actes 26, 17 et 18. L'avertissement que Paul a donné à son compagnon Timothée s'applique également à moi et à chaque serviteur de Dieu. Je te recommande de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 14. Premièrement, le Seigneur doit donner un ordre avant qu'il puisse être exécuté. Paul avait un mandat. Il pouvait témoigner du jour, de l'heure, du lieu et de ce qui lui fut dit. Actes 9, 22, 26. Moïse aussi pouvait en faire autant, Exode 3, et Josué également pouvait rendre un tel témoignage. Chapitre 1. Ésaïe raconte, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. Tous les vrais serviteurs de Dieu témoignent de leur mandat. Frère Branham pouvait se référer au 11 juin 1933, au 7 mai 1946, au 28 février 1963, à la période du 17 au 24 mars 1963, lorsque le Seigneur lui donna des instructions spéciales. De même, je peux moi aussi revenir sur des expériences dans lesquelles le Seigneur s'est adressé à moi en disant, « Mon serviteur, en commençant avec le 2 avril 1962, pouvant redonner l'heure et le lieu, ainsi que ce qu'il a ordonné à chaque fois d'une voix puissante. Par la grâce de Dieu, j'ai fidèlement obéi à toutes les instructions que le Seigneur m'a données, uniquement par la grâce qui accompagne tout appel et envoi divin. » Dans la lettre circulaire de décembre 2005, j'ai mentionné quelques-unes des instructions directes et des expériences surnaturelles que le Seigneur fidèle m'a accordées. Cela n'était plus arrivé depuis l'époque de la Bible. Mais parce que nous sommes arrivés dans la partie la plus importante de toute l'histoire du salut, le Seigneur nous montre qu'il veille sur son Église. Le mandat doit être exécuté sans reproche, comme l'écrit Paul. J'ai signé ma première lettre circulaire en septembre 1966 avec les mots « Agissant de la part de Dieu ». Cela est resté ainsi jusqu'à ce jour. Personne ne peut imaginer ce que signifie entendre la voix pénétrante du Seigneur et recevoir directement ses instructions. C'était la décision de Dieu de m'envoyer partout dans le monde, en tant que porteur du message, saint et pur. C'est lui qui a conduit pour que j'aie le privilège de connaître personnellement le frère Branham pendant 10 ans, et d'assister à ses réunions en Allemagne et aux États-Unis. Je suis un témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a fait dans notre temps. Je n'oublierai jamais ma première rencontre personnelle avec le frère Branham, le 15 août 1955. Avant même que je le salue, il m'a dit, « Tu es un prédicateur de l'Évangile. » Je me souviens encore très clairement du 12 juin 1958, à Dallas au Texas, quand il m'a dit, « Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. » Avec le même ton prophétique infaillible, le 3 décembre 1962, il répéta ce que le Seigneur m'avait dit lors de mon appel et termina par ces mots, « Attends avant de distribuer la nourriture jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. » Il me demanda de parler à sa place au groupe des hommes d'affaires chrétiens, fondé par Demos Chakarian, à la cafétéria à Clifton, le samedi suivant, 8 décembre 1962, car il devait préparer son déménagement à Tucson, en Arizona, conformément à une vision. Il m'a également demandé de parler à sa place le dimanche 9 décembre, dans l'église de Ernest Hutton d'Oakland, en Californie. Il m'a même donné l'adresse de Paul Acer Laurie, qui avait assisté à ses réunions à Bombay, et qui était un évangéliste de guérison bien connu. Je devais le contacter si je voulais faire un voyage en Inde. Je pourrais continuer à raconter comment le Seigneur fidèle a conduit toutes choses de façon merveilleuse depuis le début. Par la prédestination et la conduite divine, comme cela avait été dit à l'homme de Dieu, le message a été apporté dans le monde entier avant la seconde venue de Christ. Le plein évangile éternel a été prêché à tous les peuples pour servir de témoignage, selon Matthieu 24, 14, et la fin viendra. Ceci est également indiqué par les signes de la fin des temps. Notre Seigneur a dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Luc 21, 28. Aussi certain que la parole écrite est infaillible et sans reproche, de même l'épouse de l'agneau, qui croit maintenant la parole révélée de Dieu, rencontrera l'époux sans tache ni ride, absolument sans reproche, le jour de l'enlèvement. Il devrait être clair pour tous qu'aucun homme enseignant une fausse doctrine, et qu'aucun de ceux qui ont été égarés, ne sera enlevé. Dieu ne peut mettre son sceau que sur ceux qui sont lavés dans le sang et sanctifiés par la parole. 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Le temps est proche, le temps est là. Si nous regardons une fois de plus dans le passé récent, c'est avec une vision claire sur le futur. Tous ceux qui connaissent le ministère de Frère Branham sont familiers aux événements des années 1933 jusqu'à 1965. Mais qui a reconnu ce que Dieu a fait depuis 1966? Selon l'appel et l'envoi promis? Les 53 dernières années ont été la continuité de la véritable proclamation du message, laquelle est exécutée sous mandat direct de Dieu dans le monde entier. Il y a deux périodes. La première était de 1966 à 1979. 40 ans se sont déjà écoulés depuis que Satan a tenté de me détruire ainsi que l'Église. Il n'y a jamais eu auparavant quelque chose de semblable à ce qui se passe maintenant. Les extrémités de la terre ont été atteintes et des millions de personnes ont appris ce que Dieu a fait dans notre temps. Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne sa promesse. Mais il attend que le nombre des élus soit complet et que les derniers soient ajoutés. Malheureusement, surtout pendant les 40 dernières années, des frères qui n'ont pas reçu d'appel apparaissent. Ils exposent leur propre doctrine et attirent des disciples à leur suite utilisant le slogan « Le prophète a dit ». Ainsi, dans de nombreuses villes, il y a différents groupes, des soi-disant groupes du message qui ont émergé, lesquels suivent leurs chefs respectifs avec ces enseignements. Cependant, le Seigneur n'édifie que son Église. Lors de mon appel, il m'a ordonné, « Mon serviteur, ne fonde pas d'église locale et ne publie pas de livre de cantiques, car c'est le signe d'une dénomination. » Aussi vrai qu'il m'a dit, le 19 septembre 1976, « Mon serviteur, je t'ai destiné, selon Matthieu 24, 45 à 47, à distribuer la nourriture au temps convenable. » Tout aussi vrai, il y a des frères fidèles dans différents pays et villes qui distribuent la même nourriture spirituelle dans les églises. Voilà 53 ans que dure la proclamation bénie du message de la parole et 40 ans que des faux frères se sont introduits pour propager des interprétations. Maintenant, tous les vrais enfants de Dieu qui sont partis sous la fausse influence depuis 1979 reviennent de toutes les mauvaises directions. Le message a atteint les extrémités de la terre, le retour de notre Rédempteur est imminent. On peut s'exclamer hautement et clairement, « Voici l'époux vient. Allez à ses rencontres. » Frère Branham a souvent dit, « Au temps du soir, la lumière paraîtra, cela s'est réalisé. Mais maintenant nous sommes arrivés à l'heure de minuit. Seuls ceux qui sont prêts entreront dans la salle des noces. » Frère Branham a exécuté son mandat, « J'exécute mon mandat. Celui qui a des oreilles entend et celui qui est de Dieu l'acceptera. Que chacun s'éprouve soi-même en rapport avec l'envoi. » Ainsi dit le Seigneur, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 20. Tous ceux qui prétendent croire le message devraient regarder dans leur propre ville et se poser la question suivante, combien d'églises de Dieu y avait-il à Éphèse, à Corinthe, à Philadelphie, et à Laodicée? Si aujourd'hui il y a plusieurs églises du message, dans une même ville, alors quelque chose ne va pas. Le temps est venu pour que le jugement commence dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, 15. Nous attendons un réveil biblique dans lequel la puissance de Dieu sera manifestée. Que cela soit une année de jubilé, une année au cours de laquelle la libération soit proclamée à tous ceux qui ont été induits en erreur. Le temps est proche, le temps est venu, où tous les vrais croyants de tous les lieux doivent devenir un seul cœur et une seule âme comme au commencement. Le Seigneur se tient à la porte et frappe. Les Écritures suivantes devraient nous encourager et affermir notre foi, aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 18 à 22. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Éphésiens 1, 1 à 13. Cela se réalisera en tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse. L'Église est le centre missionnaire. Mon cœur est rempli de gratitude à chaque fois que je jette un regard rétrospectif aux nombreuses années au service du Seigneur. Le Seigneur Dieu a visiblement béni depuis le début, il a pensé à tout et pris soin de tout. C'est ainsi que nous avons pu célébrer notre 60e anniversaire en tant qu'Église locale en décembre 2018. Depuis le début, nous avons expérimenté des choses extraordinaires, car dans tous les domaines, Dieu a donné des directives et aussi la grâce pour les mettre à exécution. Lorsque je suis revenu à Krefeld, après les funérailles de frère Branham en avril 1966, une nouvelle période particulière a commencé. Dans chaque ville où je tenais des réunions, les croyants venaient entendre la parole de Dieu. La photo montre un baptême dans un petit lac dans la banlieue de Krefeld en 1968. Tout d'abord, nous nous réunissions dans les maisons et, à mesure que la communauté s'agrandissait, nous avons loué des salles. Finalement, à Pâques 1974, nous avons pu inaugurer notre propre lieu de rassemblement avec 560 sièges. De même, le travail missionnaire s'est développé au fil des voyages missionnaires mensuels dans le monde entier. Puis vint le 18 juillet 1976, lorsque le Seigneur s'adressa à moi d'une voix puissante, « Mon serviteur, va sur le terrain voisin et consacre-le-moi. Construis dessus, car des gens de nombreux pays viendront et auront besoin d'être logés. » En plus du petit terrain sur lequel notre église est bâtie, nous avons ensuite pu acheter encore la grande parcelle adjacente, en sorte que le terrain compte maintenant exactement 10 000 m². L'inauguration des deux grands bâtiments de la mission avec les bureaux et les logements s'est déroulée à Pâques 1978. Le complexe a été achevé en 1990, par la construction de la maison d'édition devenue indispensable, dans laquelle se trouvent l'imprimerie et les salles de travail et d'expédition. Dieu s'est également chargé de disposer des sœurs dans les bureaux et pour les travaux d'expédition, ainsi que des frères pour les travaux d'imprimerie et dans le domaine technologique, certains d'entre eux venant de pays lointains. C'est ainsi que notre littérature ainsi que les CD et DVD peuvent être envoyés dans différentes langues. Les réunions des premiers week-ends de chaque mois sont traduites simultanément en 14 langues, et diffusées en direct sur Internet. Nos frères doués en technologie ont veillé à ce que nos réunions puissent être suivies dans différentes langues dans le monde entier. Actuellement, nous avons atteint 7500 connexions dans 172 pays. Ainsi, tout ce qui est nécessaire pour l'Église locale et pour l'œuvre missionnaire mondiale est à notre disposition. Tous ceux qui sont impliqués dans l'œuvre de Dieu le servent avec dévotion, de sorte que même les amateurs sont devenus des professionnels. Dieu a également pris en charge la prédication et a ouvert des portes partout dans le monde, quel que soit le caractère religieux ou politique de chaque pays. En outre, toutes les communautés de tous les pays ont été et seront équipées du matériel nécessaire pour que les vrais croyants soient unis à Dieu par la prédication basée uniquement sur les Écritures. En fait, tout cela n'est qu'un miracle unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la terre. La parole de Dieu a été prêchée à toutes les nations comme témoignage, comme le Seigneur l'avait prédit. Nous sommes maintenant très proches de la fin. Le Seigneur achèvera son œuvre de rédemption comme il a achevé son œuvre de création, et ce sera très bien fait. Lui seul mérite toute notre gratitude pour l'éternité. La photo montre frère Léonard Rousse à mes côtés lors de l'inauguration de l'église en 1974. Oui, frère Rousse était un homme selon le cœur de Dieu. Pendant plus de 50 ans, nous avons servi le Seigneur ensemble. À cette occasion, je dois mentionner encore une fois que le Seigneur fidèle m'a commandé à haute voix, un vendredi soir de septembre 1967, mon serviteur, établit Léonard Rousse, et Paul Schmid comme ancien. Dans Tite 1, 5, Paul commanda à son compagnon d'œuvre d'établir des anciens dans les églises de Crète. À Krefeld, c'est le Seigneur qui m'a ordonné de le faire et a prononcé les noms et prénoms des frères. Frère Rousse est auprès du Seigneur depuis plusieurs années. Grâce soit rendue au Seigneur. Frère Schmid est toujours parmi nous. Israël dans la prophétie. Dans les nouvelles quotidiennes, nous ne cessons d'entendre comment Israël est critiqué et condamné. La menace de l'Iran de vaincre Israël dans une guerre de 3 jours, au point que les Israéliens ne trouveront pas assez de tombes pour enterrer leurs morts, parle d'elle-même. Cela nous rappelle les promesses de Dieu concernant Israël, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12, 3. Quand je les rassemblerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux, aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elle aucun d'eux. Ésaïe 39, 27 et 28. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Zacharie 2, 12. Nous entendons également parler du rôle que le pape joue dans le conflit du Moyen-Orient. Lors de sa visite à Abu Dhabi en février, il a à plusieurs reprises insisté sur la paix et abordé le sujet sur la violence contre Israël. Après son discours, le pape et le grand imam de la mosquée à Al-Azhar, lequel est considéré comme étant le plus important imam de l'islam sunnite, ont signé une déclaration commune appelant à une paix mondiale. Il devient de plus en plus clair que le traité de paix avec Israël n'est plus bien loin. Selon Daniel 9, 27, ce sera un contrat de 7 ans qui sera rompu à sa moitié. Paul écrit, « Quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » 1 Thessaloniciens 5, 3. Mais cela n'arrive qu'après notre temps. Frère Branham voulait apporter l'Évangile en Israël, mais Dieu ne le permit pas. Citation. J'attends la grande occasion d'aller un jour en Israël pour leur apporter l'Évangile. Récemment, j'étais très proche, en Égypte, et j'avais déjà acheté mon billet. J'aurais été là en une demi-heure. Et aussi clairement que vous entendez ma voix, le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas encore l'heure pour les Juifs. Israël sera sauvé en tant que nation. La nation entière s'ajoutera en une fois. Dieu agit avec Israël en tant que nation. Nous le savons tous. Pas avec l'individu, mais en tant que nation. Il ne m'a pas laissé partir. 8 juillet 1962. Ni frère Branham, ni personne d'autre n'est destiné à apporter l'Évangile en Israël, ceci est réservé aux deux prophètes, comme il est écrit dans Apocalypse 11 et dans Zacharie 4, 14. Premièrement, le Rédempteur achèvera son œuvre de grâce avec les élus de toutes les nations, et prendra son épouse dans la gloire lors de l'enlèvement pour le repas des noces. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, Apocalypse 19, 5 à 9. Notre mission est de faire retentir le dernier appel en apportant le dernier message au peuple de Dieu dans toutes les nations de la terre. Tous ceux qui sont nés de nouveau par la parole et par l'Esprit de Dieu entendent, croient, et expérimentent leur préparation, et seront finalement enlevés dans la gloire au jour de l'enlèvement. Amen. Nous nous réjouissons avec Israël et surtout de la promesse que la parole sortira une fois encore de Jérusalem, du mont Sion. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe 2, 3. Que le Seigneur fidèle vous bénisse tous. La photo montre notre groupe en visite à la Knesset le 17 mai 2018. Le 21 janvier 2019, j'ai écrit une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou, en mentionnant clairement 8 passages des Écritures de l'Ancien Testament qui sont actuellement en train de s'accomplir en Israël. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck.